Le récit de Layli. Deuxième chapitre. Tu te souviens, Tidiane? Ta maman habitait Ségou, une petite ville au bord du grand fleuve Niger, à 5 heures de route de Bamako, dans une case, comme la plupart des habitants là-bas. C'est une maison normale, sauf que les toits sont en tôle, les sols en sable, les murs en torchis, un mélange de terre, d'eau, de poils et de paille. C'est très solide, le torchis, à condition qu'il ne pleuve pas. À Ségou, tu sais, il ne pleuvait jamais. Le soleil. Toujours ce maudit soleil. Il faut que tu saches, Tidiane. Ta maman avait à peu près ton âge à l'époque, et elle était têtue, presque plus têtue encore que toi. À force de se baigner dans le fleuve, elle avait attrapé une maladie de peau qui l'obligeait à se protéger pendant 3 mois du soleil. Ta mamie et moi, nous avions installé ta maman dans une case. La case n'était pas bien grande, mais nous avions tout fait pour que ta maman s'ennuie le moins possible. J'avais fabriqué des poupées avec des graines de mil et de sorgho, des animaux d'argile, des petites maisons en feuilles de bananier tressées. Marem lui cousait des déguisements. Au bout d'une semaine, Layli, ta maman, ne tenait déjà plus en place. Elle était une antilope. Elle ne vivait que pour courir pieds nus dans un nuage de poussière. Mamie et moi ne savions plus quoi faire. Nous avions l'impression d'enfermer un piapiac en cage. Un oiseau qui allait perdre son chant, la couleur de ses plumes jusqu'à ne plus savoir voler. Il se trouve que, quelques jours plus tard, des hommes du village organisaient un voyage à Bamako pour aller porter des doléances à leurs députés qui ne mettaient jamais les pieds jusqu'ici. Je les ai accompagnés. J'avais ma petite idée. Une fois à Bamako, je les ai laissés et je suis allé directement à l'Institut culturel français. Chercher des livres. Ta maman savait lire, Tidi. Elle était bonne élève, curieuse de tout, même si elle préférait 1000 fois courir après les papillons des champs que de rester assise sur sa chaise d'école. Il possédait beaucoup de livres à l'Institut français, mais n'était pas d'accord pour que je les emprunte aussi loin. Finalement, à force de palabrer, ils m'ont laissé sortir un livre. Un seul. Contes et légendes de la mythologie grecque. Moi qui n'avais jamais entendu parler d'Hercule, d'Ulysse ou de Zeus, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour j'habiterais un immeuble baptisé Poséidon dans la cité de l'Olympe. Comme quoi, tu vois, Tidiane, il n'y a jamais de hasard. Tout est écrit. Je suis revenu à Ségou avec mon gros livre blanc. Layli boudait toujours. Ne voulait pas ouvrir le livre. Alors, chaque matin, chaque midi, chaque soir, avant que la nuit tombe, je lui lisais l'une des histoires du livre. Le recueil contenait 15aine d'histoires. On en avait fait le tour en moins d'une semaine. Dans le mois qui a suivi, Layli connaissait déjà par cœur les récits. Son préféré était le 11e travail d'Hercule, celui où Hercule doit emprunter à Hélios son char du soleil pour aller jusqu'à l'extrémité ouest du monde et voler les fruits d'or du jardin des Hespérides, à la barbe du titan Atlas qui porte le monde sur son dos. On raconte que ces fruits d'or sont des oranges, Tidiane. Que les Grecs ne connaissaient pas ces fruits, et que pour cette raison, la grande montagne marocaine porte le nom d'Atlas. Hercule a navigué jusqu'à Gibraltar, entre l'Afrique et l'Europe, là où se dressent toujours ses colonnes. Quelques semaines plus tard, je suis retournée à Bamako. J'ai réussi à emprunter d'autres livres à l'Institut culturel français. Allait déposer dans une petite étagère en bois au pied du lit de Layli. Et ta maman s'est mise à lire. D'un coup, Beaucoup. Elle dit souvent aujourd'hui que ces 2 mois où elle lisait parfois plusieurs livres par jour furent les plus beaux moments de sa vie. Désormais, tous les habitants du village étaient au courant, l'aidaient, lui rapportaient des livres de Bamako. Elle s'en faisait prêter par des coopérants français, par l'institutrice du village, par des touristes qui filaient vers le pays Dogon. À l'époque, les Français pouvaient voyager librement au Mali, sans que leur président ne l'interdise par peur qu'il se fasse enlever. Tout allait bien, Tidiane. Ta maman avait trouvé la meilleure des façons d'occuper les interminables jours où elle était condamnée à rester dans sa case-cage. Voyager à travers la lecture. Même moi, je n'aurais jamais cru cela possible. Qu'une gerboise se transforme en rat de bibliothèque. Depuis, j'ai compris. J'ai compris que c'est la même curiosité qui poussait Layli à courir, puis à lire. La même soif, la même faim, la même flamme. Mais tu es trop jeune pour comprendre cela, Tidiane. Layli dévorait des livres toute la journée, et pourtant, chaque matin, elle relisait la première histoire que je lui avais rapportée. Le 11e des 12 travaux d'Hercule. Les fruits d'or du jardin des Hespérides. Elle s'était passionnée pour le char solaire emprunté par Hercule, ce char d'Hélios qui filait d'est en ouest jusqu'au bout du monde connu, tiré par 10 fabuleux chevaux, Actéon, le rayon de l'aube, Astérope, qui allume les premières étoiles, Érythrée, le levant, Phlégon, le couchant, Lampos, le plus lumineux que l'on aperçoit qu'au zénith, Pyroi, le feu ardent du cœur du soleil. Les contes contiennent toujours une part de vérité, Tidi. Du moins, ta maman le pensait. Seule dans sa case, sans autre lucarne sur le monde que la petite ouverture dans le mur de torchis, Layli, dès qu'elle quittait ses livres, cherchait à percer le secret du soleil, à suivre la course du char et à distinguer chacun des 10 chevaux du dieu Hélios. Actéon et Érythrée chaque matin, Astérope et Phlégon chaque soir, Lampos et Pyroi quand le soleil était au plus haut. Elle notait chaque jour la position exacte du char d'Hélios, en suivant les rayons qui filtraient par la lucarne, puis en traçant de petites marques du bout des doigts sur les murs de torchis. Un matin, un des premiers matins du 3e mois, pour la première fois, j'ai trouvé ta maman allongée sur son matelas, sans livre à la main, sans même qu'elle fixe la lucarne, les yeux baissés vers les traces de doigts dans l'ombre du mur. Elle m'a juste dit « Mes yeux sont fatigués, papa. » Je l'ai conduite au dispensaire, en protégeant son corps du soleil, en recouvrant ses bras, ses épaules, ses jambes de grand tissu. Idiot que j'étais. Le mal était fait. Le mal était entré. Le soleil s'était approché, déguisé, comme un diable se déguise en griot. Je n'avais pas su protéger ma petite fille. Pire même, avec ce livre, j'avais fait entrer ce démon dans sa chambre. Le médecin du dispensaire me prit à part et mit longtemps à me convaincre. Elle a trop regardé le soleil. Je ne comprenais pas. Tous les enfants du monde, tous les hommes et toutes les femmes se promènent et lèvent les yeux au ciel sans avoir peur que le soleil ne leur brûle les yeux. Le médecin m'expliqua, en ouvrant un dictionnaire médical pour que je sache comment fonctionne un œil de l'intérieur. Les cellules optiques sont particulièrement sensibles au soleil, parce que le cristallin fait loupe. Mais la rétine n'a pas de nerf de la douleur. Et on ne sent pas la brûlure. Exactement comme pour un coup de soleil. On ne ressent pas la chaleur immédiatement, mais les cellules sont déjà détruites. Je ne comprenais toujours pas. Tout le monde aurait dû être touché alors si le soleil était aussi dangereux. Tous ceux qui sortent en plein jour, tous ceux qui ne portent pas de lunettes noires, personne ne porte de lunettes noires en Afrique. Que faites-vous, monsieur Mal, si par hasard vos yeux croisent le soleil ? Je ne répondis pas au médecin. Je ne savais plus quoi dire, Tidi. J'étais inquiet pour ta maman, seulement inquiet, pas encore désespéré. Vous fermez les yeux par réflexe, monsieur Mal, parce que vous êtes ébloui. Les paupières servent à cela, comme une porte automatique qui se referme, mais... J'avais peur de ce qu'il allait me dire. Mais votre fille n'a pas voulu fermer les paupières. J'ignore pourquoi. Mais elle a fait preuve d'une volonté de fer. Elle a lutté contre l'éblouissement, souvent, très souvent, longtemps. Et alors, docteur, ce sera long. Elle pourra bientôt relire. Je comptais avec angoisse les 30 jours qui restaient et pendant lesquels Layli ne pourrait ni lire ni écrire. Le médecin m'a regardé comme si j'étais le dernier des imbéciles, comme si j'étais ce genre d'homme qui déclenche des catastrophes sans le faire exprès, qui ne comprennent rien tant qu'on ne leur a pas mis les points sur les i. Vous ne m'avez pas entendu, monsieur Mal. Votre fille n'a ressenti aucune douleur, mais ses cellules sont déjà détruites. Le processus est déjà déclenché. Plus rien ne peut l'arrêter. Plus rien ne peut arrêter quoi ? La cécité. Je ne connaissais pas ce mot, Tidi. Le médecin a dû s'en rendre compte. Peut-être qu'il a eu un peu de pitié à ce moment-là. Alors, il a précisé. Votre fille va devenir aveugle, monsieur Mal. Plus rien ne pourra l'empêcher.